À quelle heure il faut arrêter? Pour être à 15 à 30, le repas est à 30 normalement.
Le repas est à 30.
Ouais.
Attends, je fais là. Oui, bah à 15.
D'accord. Pardon? Voilà, mais non, mais moi ma montre est arrêtée, donc je n'ai aucune idée du temps qui passe. C'est les soins palliatifs, ça. Bonsoir. Alors, on va démarrer, puis s'il y en a qui arrivent après, il faut que je parle dedans. Vous avez besoin du micro?
Oui.
Ah, dommage. Voilà, donc je m'appelle Claire Fourcade, je suis médecin dans une équipe de soins palliatifs, enfin un pôle de soins palliatifs à Narbonne. Donc je vais peut-être juste vous expliquer un petit peu comment on travaille et après il me semble que ce serait peut-être plus intéressant si on a plutôt un échange. Je ne peux pas vous faire un cours sur les soins palliatifs, hein, l'idée serait plutôt si vous avez des questions ou s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on réfléchisse ensemble, parce qu'il y a quand même plein de questions des soins palliatifs qui concernent d'abord tout le monde en tant que citoyen et puis en tant que soignant aussi. Donc voilà, il me semble que ça sera plus intéressant si on échange que si je vous fais un... que si je vous parle comme ça, c'est, le cours magistral, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc je travaille dans un pôle de soins palliatifs où il y a à la fois, dans la même équipe, ce qui est une particularité, une équipe mobile. Donc ça veut dire une équipe qui suit des patients à la fois, donc je travaille dans un petit établissement privé où il y a 250 lits, donc voilà, un établissement qui n'est pas très grand, hein, dans une ville qui n'est pas très grande, dans un département qui est très rural et qui est un des plus pauvres de France, ce qui est important parce que ça veut dire qu'on a une sociologie de patients qui est quand même un peu particulière. Donc on a une équipe mobile qui se déplace à la fois dans les services de la clinique et à domicile. Et puis on a un service de soins palliatifs où on a 12 lits de soins palliatifs. Et puis on est en train d'ouvrir, là ça va ouvrir la semaine prochaine, un accueil de jour dont je vous dirai sûrement un mot, parce que c'est un truc un peu particulier. Et donc avec l'idée pour nous qui s'est construite petit à petit, donc l'équipe existe depuis le 1er janvier 2000, donc ça fait 18 ans maintenant, avec l'idée de proposer aux patients qui sont atteints de maladies graves, on essaye d'avoir des prises en charge précoces. Donc à la clinique, toute la cancérologie du bassin de santé se fait à la clinique. Donc c'est pour ça qu'on est sur la clinique et on a donc une grosse file active de patients en cancéro surtout. Très peu de gériatrie parce qu'il n'y a pas de gériatrie sur la clinique. Et par contre, on fait beaucoup de cancéro et on a aussi un gros centre de dialyse, donc des patients en arrêt de dialyse et puis voilà, après des choses un peu plus variées, de la neuro, tout ça, mais principalement de la cancéro. Et donc l'idée est de proposer aux patients une prise en charge qui soit la plus diversifiée possible en termes de type de prise en charge pour que eux puissent à n'importe quel moment de la maladie trouver ce qui leur convient, c'est-à-dire les patients qui veulent être à domicile, ceux qui à un moment ont besoin d'être hospitalisés, ceux qui ont besoin d'être sécurisés dans leur maintien à domicile en venant à l'hôpital de jour de manière régulière. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit le plus souple possible et en même temps qu'ils retrouvent dans tous ces lieux-là les mêmes têtes. C'est-à-dire, pour nous, ce qu'on voulait absolument éviter, ce qu'on veut toujours absolument éviter, alors que les tutelles nous y poussent depuis un moment, c'est des millefeuilles de prise en charge où il y a une équipe qui fait le domicile, une équipe qui fait l'hospice, une équipe qui fait les services, et où chaque fois qu'ils viennent, ils doivent recommencer à zéro, à réexpliquer à quelqu'un de différent, à une psycho différente, à une assistante sociale différente, à un médecin, pourquoi ils ne veulent pas tel ou tel type de traitement. Donc l'idée est vraiment de proposer une prise en charge globale et assez fluide pour que les patients qu'on voit à domicile, on puisse leur dire, ça serait bien que vous veniez quelques jours à la clinique, on pourrait équilibrer votre traitement et c'est nous qui vous accueillerons, ou bien ceux qui sont hospitalisés et qui vont rentrer chez eux, et qui auront parfois la trouille de rentrer chez eux, de pouvoir leur dire, on viendra vous voir à domicile dans 3 jours pour être sûr que tout se passe bien et on fera le point ensemble. Et du coup, voilà, d'essayer de créer, si vous voulez, une espèce de sécurité autour de ces prises en charge qui permettent aux patients de se concentrer sur ce qui les met eux en difficulté et pas sur l'énergie qu'il faut pour appréhender un dispositif qui est parfois complexe et souvent complètement illisible, déjà pour les soignants du domicile ou de l'hospice, et alors encore plus pour les patients qui ne comprennent rien, qui c'est une EMSP, une HAD, des lits identifiés, tout ça reste complètement obscur pour eux et ça n'a aucune importance. Et voilà, donc à l'intérieur, si vous voulez, de ce pôle de soins palliatifs, les patients circulent en fonction de leurs besoins, de ce qu'eux souhaitent et de ce que nous on leur propose de la manière la plus souple possible. Et donc, à l'intérieur de ce pôle, ce qu'on leur propose, c'est une prise en charge globale, ce qui est l'objectif des soins palliatifs, hein, c'est d'essayer d'entendre la globalité de la plainte des patients, de ne pas soigner une maladie, mais un malade, pour essayer de prendre en charge l'ensemble de ce qu'il met en difficulté. La maladie les confronte à des difficultés multiples et d'ordre très variés, et on essaye de pouvoir entendre l'ensemble de ces difficultés. Donc dans l'équipe, on est 3 médecins, il y a à temps partiel, une qui est à mi-temps sur un cabinet de médecine générale, et puis on est 2 à travailler exclusivement sur le service. Il y a une psychologue, une psychanalyste, 2 infirmières, une assistante sociale, et une secrétaire, ça c'est pour l'équipe, si vous voulez, qui se déplace. Et puis dans le service d'hospitalisation, en plus, bon, il y a les soignants, il y a des soignants avec un ratio de soignants assez élevé. Et puis on a là une équipe de bénévoles et 2 moines qui viennent 2 fois par semaine dans le service pour assurer, je dirais, une écoute spirituelle. Plus que, donc ils viennent d'une abbaye voisine de Narbonne. C'est une expérience qu'on mène depuis déjà quelques années, et je dis une écoute spirituelle parce qu'on a 12 patients dans le service et qu'ils envoient en moyenne 8 chaque fois qu'ils viennent. Donc c'est, alors l'Aude, c'est un des départements les plus déchristianisés de France, donc c'est évidemment pas 8 catholiques pratiquants qui ont la carte du parti et tous les attributs qui vont avec. Donc par contre les patients sont très demandeurs parce que c'est une forme, je pense, d'écoute non médicale qui est pour eux importante. Ça permet d'aborder des questions existentielle qui se pose à tous les patients, même voilà, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer d'une aumônerie. Voilà, donc ils sont en habit, enfin il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, hein, mais en même temps, je pense qu'il y a de leur part une écoute suffisamment ouverte pour que puissent s'y retrouver des patients qui n'y auraient certainement pas cru au départ. Voilà, donc là aussi, l'objectif de notre équipe est de proposer une prise en charge, c'est-à-dire que notre objectif est d'accompagner les patients. Alors, ils nous sont confiés soit par les oncologues, avec qui ça fonctionne assez facilement et qui nous confient les patients assez tôt, dès qu'ils repèrent, des fois dès le diagnostic, quand ils repèrent que ça va être compliqué, quand il y a des enfants jeunes, quand c'est des difficultés sociales particulières ou quand c'est des diagnostics particulièrement difficiles. Et puis sinon, tout au long de la prise en charge, parfois des familles ou des patients directement, assez souvent des équipes du domicile, médecins ou infirmières du domicile qui appellent quand ils ont besoin d'aide, et là on va directement au domicile. Donc parfois des patients qui ne sont pas du tout suivis à la clinique. Et puis un nombre relativement de plus en plus important de patients qui viennent de Montpellier, donc qui sont allés se faire suivre à Montpellier, au centre anticancéreux ou au CHU, et qui reviennent parce que quand il y a un arrêt de soins ou quand il y a un rapprochement familial, pour faire un relais de prise en charge à ce moment-là, plus près de leur domicile, pour que ce soit plus facile. Donc voilà, une assez grande diversité de provenance des patients. La moyenne d'âge de nos patients l'an dernier, c'était 59 ans. Donc c'est pour vous dire que voilà, quand même, c'est globalement quand même des patients plutôt jeunes, hein, qu'on accompagne. Donc l'an dernier, l'année qui vient de se finir, la 2016, on vient de finir le bilan d'activité, on a accompagné 600 patients. Donc là-dedans, il y a à peu près 500 patients qu'on a accompagnés physiquement et une centaine pour lesquels on est intervenu uniquement en back-office, c'est-à-dire les médecins nous appellent en disant voilà, je suis en difficulté avec un patient, je ne sais pas trop comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles. Donc soit des fois c'est des patients qui n'ont pas envie de voir une équipe, soit c'est que le médecin ne ressent pas le besoin, mais qu'il a juste besoin à un moment de sa prise en charge de savoir ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait adapter son traitement, qu'est-ce qu'il peut proposer, et donc là on intervient pour faire uniquement du conseil. Voilà. Donc là aussi pour nous l'idée c'est que ce soit le plus facile possible pour les médecins. C'est-à-dire qu'il y ait le moins d'obstacles possible. C'est pas la sécu quand on appelle, ah ben non, il faut rappeler le bureau B23. On essaye que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on fonctionne aussi dans la clinique. Il y a un service d'HAD. S'ils appellent l'HAD parce qu'ils n'ont pas compris la différence entre l'équipe d'HAD, elle va répondre. Elle va pas dire c'est pas ici. Elle va nous transférer l'appel ou voilà. L'idée, c'est qu'à aucun moment, celui qui appelle, bute sur un obstacle. Enfin, ou en tout cas, le moins possible, je dis. C'est ce qu'on essaye de faire. Après, ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, ça ne bute pas sur un obstacle d'ordre matériel. Voilà, donc on est sollicité pour des prises en charge de symptômes, la douleur, les difficultés respiratoires, les problèmes digestifs. On est sollicité beaucoup pour des prises en charge globales, c'est-à-dire, voilà, c'est compliqué la situation et on a besoin de ne pas rester tout seul, ou on sent que ça va devenir compliqué et on voudrait être aidé. Parfois pour des prises en charge uniquement sociales, l'organisation du retour ou du maintien à domicile. Donc l'assistante sociale va être la porte d'entrée. Après, souvent, ça va permettre de faire entrer d'autres membres de l'équipe. Mais c'est elle d'abord qui va intervenir pour faire une évaluation avec la famille sur des aides à domicile, sur comment on peut aménager le logement, comment on peut... C'est surtout les aides à domicile, hein, pour organiser le maintien ou le retour, pour sécuriser les familles, rassurer et soutenir. Ça peut être des fois juste une demande psy au départ. Mais souvent, ces demandes, elles sont évolutives. On a le point d'entrée, et puis après, ça va bouger en fonction de ce qu'on propose et de la demande des patients. Donc, plus le temps avance, et moins on a des demandes liées uniquement aux symptômes, et plus on a des demandes plutôt globales, de réflexion globale sur une situation, ce qui est pour nous plutôt un bon signe. Ça veut dire aussi que petit à petit, tout ce qui est lié aux symptômes, les gens s'approprient un petit peu les traitements et les prises en charge. L'objectif pour nous est vraiment d'accompagner les patients. On n'a pas de projet pour eux, on n'a pas d'objectif. Il n'y a aucun endroit où on veut les amener. On va là où ils veulent, au rythme qu'ils veulent et avec les mots qu'ils veulent en particulier. Ça veut dire que quand on est appelé, moi quand je vois un patient pour la première fois, je me présente en disant que je suis médecin et que je viens parce que votre médecin m'a demandé de passer parce que vous avez mal ou parce que vous allez rentrer à domicile et qu'il y a des choses à préparer. Je ne me présente jamais comme le médecin de l'équipe de soins palliatifs parce que je ne sais pas où en sont les patients, parce que je trouve que voilà, chacun va à son rythme. Donc il y a des patients qui vont dire « Ah oui, vous êtes l'équipe de soins palliatifs » et puis ça roule. Des patients qui ne vont jamais le dire et qui ne vont jamais vraiment le formuler. Et moi, en tout cas, notre équipe, ça nous est tout à fait égal. L'objectif n'est pas qu'ils sachent, l'objectif n'est pas... à un moment, ils ont besoin d'une équipe pour les aider à régler une difficulté, et c'est nous qui intervenons, et voilà, ça ne s'inscrit pas forcément dans une démarche obligatoirement de prise de conscience, et on va à leur rythme, en fonction de ce qu'ils peuvent entendre, de ce qu'ils ont compris, de là où ils en sont eux, et voilà, il nous semble que c'est ce qu'il y a de plus respectueux pour eux du chemin qu'eux font, et donc nous on essaie de les accompagner sur ce chemin. Alors forcément ça va offrir des espaces de parole qui vont permettre que des choses avancent, hein, mais voilà, on n'a pas d'idée que ça serait bien qu'à la fin ils aient fait toutes les étapes du chemin et qu'ils soient arrivés à l'étape de la sérénité et qu'ils aient bien tout balisé, coché toutes les cases, et donc voilà, ça veut dire que on n'a pas beaucoup de principes, on est assez laxiste sur la façon dont on fonctionne. Voilà, c'est les grands principes généraux de notre activité. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez...
Je ne sais pas s'il y a besoin de changer le micro. Si, bon, d'accord. J'étais à une conférence hier sur les soins palliatifs à Nantes. Il y avait un ancien chef de service de cancérologie. Il insistait beaucoup sur la notion d'écouter le patient, mais en fait, je ressentais un peu presque un harcèlement à écouter le patient. Enfin, et du coup, ce que vous dites, ça fait un peu la balance, parce que je sais pas. En plus, il était pro-euthanasie en question, ce monsieur. Mais on avait l'impression qu'il attendait que le patient aboutisse à la demande de mort et que l'équipe puisse l'obtempérer pour faire valoir sa toute puissance. Et donc, en fait, du coup, il y a une question qui en découle, c'est justement quand le patient dit rien. Il y a sûrement des situations, alors sans que le patient refuse l'équipe de soins palliatifs, il dise juste rien. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations ?
C'est une question super importante parce que avec le développement des soins palliatifs, on voit parfois, effectivement, je trouve en tout cas, quelque chose qui s'approcherait de l'acharnement relationnel. C'est-à-dire qu'on fait plus d'acharnement thérapeutique, mais alors il faut absolument, il faut qu'ils aient coché la case psy, il faut qu'ils aient coché, il y a vraiment une espèce de filière là où, et il me semble que, moi je suis assez d'accord avec vous que c'est pas du tout adapté aux besoins des patients. on répond à leurs demandes. La psy chez nous ne passe jamais, même pour les patients hospitalisés, elle passe jamais voir systématiquement les patients. Elle refuse depuis le début. Et pourtant, des fois, on aurait aimé qu'elle le fasse, mais c'est-à-dire qu'elle ne va voir les patients que s'il y a une demande, que si c'est eux qui sont demandeurs, avec l'idée que de toute façon, il n'y a aucun travail qui est possible avec un patient si lui n'a pas fait la demande. Alors nous, des fois, l'impression qu'on a, c'est que si elle se présentait, ça ferait tomber certaines angoisses des patients qui ont peur de demander. Mais en tout cas, je pense que sur le fond, elle a raison de s'y tenir parce que voilà, l'idée n'est pas que parce qu'on va mourir, on doit voir un psy. C'est, je veux dire, il y a des patients qui ne vont pas vouloir avoir d'équipe de soins palliatifs, ben, il n'y a pas de problème. S'il y a vraiment un besoin des soignants, on va intervenir avec les soignants. Et on va essayer de donner aux soignants des outils pour qu'ils puissent intervenir auprès de leurs patients. On suit une patiente en ce moment qui a 40 ans, qui a un néo du sein avec des métas cérébrales et qui veut absolument rester autonome à domicile, enfin, qui a 2 enfants d'âge scolaire. Et c'est super compliqué. La première fois qu'on est allé, c'est l'équipe de Montpellier qui nous a demandé. Alors, ils arrêtent les soins. Ça, c'est quand même souvent les équipes du CHU, tout ça. Elles annoncent un arrêt de soins et elles disent « Bon, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Il y a une équipe qui va intervenir. » Et alors, nous... On appelle là et alors les gens, soit ils n'ont rien compris, soit ils sont restés bloqués sur l'annonce de l'arrêt de soins et du coup, les relais sont souvent assez difficiles à prendre. Donc moi, la première fois que je suis à domicile voir cette patiente, elle était en chien de fusil sur son lit. Elle avait des céphalées, enfin, elle avait des symptômes d'hypertension intracrânienne tellement forts que dès qu'elle bougeait la tête, elle se mettait à vomir. Donc elle était en chien de fusil sur le lit, elle pouvait absolument pas tourner la tête et elle a refusé mais absolument d'être hospitalisée alors que moi j'avais l'impression que si on lui mettait du mannitol elle voulait pas être perfusée à la maison mais qu'avec du mannitol et du solumédrol elle serait bien mieux et mais voilà elle était dans un refus mais vraiment complètement on est reparti on a vu avec le médecin et puis 4 jours après, elle a accepté de venir à la clinique. Alors, on a négocié pied à pied. Elle est venue 3 jours. Elle a eu 3 jours de mannitol et de solumédrol. Elle était beaucoup mieux. Elle est repartie. Elle est à son domicile. Alors, on a négocié avec elle. On lui met le mannitol la nuit avec un infuseur Baxter qu'elle branche si elle veut ou qu'elle branche pas si elle veut pas au moment où elle se couche. Mais voilà, c'est une espèce de négociation pour que les patients ils puissent être dans ce qui leur convient à eux. Et je suis assez d'accord qu'il y a dans cette façon de vouloir pour les patients... Enfin, moi, plus je vieillis et moins j'ai d'idées sur ce qui est bien pour les patients. Et je pense qu'on fait une médecine quand même, alors surtout la nôtre, hein, je veux dire, qui gagne pas souvent la guerre. Hein, donc, on gagne des fois quelques batailles, mais on perd toutes nos guerres. Donc, voilà, on est forcément dans une. Enfin, il me semble qu'on a à être forcément dans une position d'humilité par rapport à ça, et donc d'accueil de ce que souhaitent les patients, mais pas plus. Je ne sais pas si ça répond à ce que...
C'est un établissement qui fait partie d'une congrégation qui est affichée catholique ou pas ?
Absolument pas. Alors on fait partie. Je ne sais même pas maintenant de quoi on fait partie. On a été racheté 4 fois dans les 5 dernières années. On fait partie d'un énorme groupe qui s'appelle Medipol Partenaire, où il doit y avoir 90 cliniques maintenant, qui maintenant a été racheté, je crois, par des Italiens. Enfin, non, un établissement privé, tout ce qu'il y a de plus à but lucratif, tout ce qu'il y a de plus. Donc ça veut dire que c'est possible. Contrairement à tout ce qu'on entend, ça veut dire que c'est possible même dans ce type d'établissement, donc a priori dans tous les établissements. Et on n'est jamais, j'ai jamais en 18 ans été embêtée une seule fois sur une durée d'hospitalisation. On a parfois des patients qui vont rester 3 mois, 4 mois dans le service. Jamais on m'a dit ce patient-là, il faut qu'il parte. On a changé 3 fois de direction. Enfin, je veux dire, c'est pas lié non plus à une personne. Je pense qu'il y a très peu d'établissements privés qui font du soin palliatif. La plupart du temps, c'est des établissements publics. Parce qu'on a l'idée que c'est une activité qui rapporte rien et donc elle peut être faite que par le public. Mais on a bien moins de contraintes. Je vois mes confrères du public qui sont souvent dans des souffrances vraiment difficiles par rapport à l'institution. Et nous, on a une grande liberté, et c'est super précieux. Enfin, là, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance. Il y a un grand pragmatisme, c'est-à-dire si ça fonctionne, on ne va pas les embêter, quoi. Et comme ça fonctionne à peu près, ben, on ne nous embête pas. Et du coup, s'il y a un patient qui reste longtemps, ben, ce sera compensé par un patient qui est resté moins longtemps. Et puis voilà, mais je crois que personne ne s'intéresse de très près à ce qui se passe. Ça va très bien comme ça. Et du coup, voilà. Donc les frères, ils sont arrivés. Alors par contre, tout au début, quand j'ai commencé, l'établissement, c'était une toute petite clinique qui appartenait à une famille. comme ça. Enfin, c'était un chirurgien qui avait monté sa clinique dans les années 50. Et donc, moi, j'ai vécu la fin de ça. Ce monsieur, ce chirurgien, il avait pris sa retraite. Moi, je ne l'ai jamais connu en activité. Mais lui, par contre, c'était une famille catholique. Et donc, c'est lui qui avait fait venir les frères. En fait, lui, il venait le dimanche distribuer la communion aux patients. Et puis, quand il a vu qu'il n'y arrivait plus parce qu'il vieillissait, c'est lui qui a fait venir les frères. Mais un peu... pareil, il venait le matin très tôt, un peu... discrètement, disons, je dirais, c'était pas en cachette, mais c'était pas vraiment, il y avait rien d'officiel. Et puis du coup, on l'a formalisé. Moi, je pense qu'au début, ils ont dû venir pendant plusieurs mois sans que personne s'en aperçoive trop. Et puis après, on a trouvé que c'était important de le formaliser pour plein de raisons. Et d'abord pour eux, pour ces frères qui viennent, qui sont des frères très jeunes. C'est une abbaye où il y a 40 moines qui sont tous très jeunes. Et moi, quand j'ai découvert ceux qui venaient, c'était des frères en formation. Je me suis dit, la vache, parce qu'ils entendent des choses. Enfin, les patients, ils leur parlent parce qu'ils ont un habit. Et du coup, eux, ils repartent le soir. Et qui sait qui écoute ce qu'ils ont entendu. Enfin, ils ont 25 ans. On leur confie des choses qui sont probablement très lourdes. Nous, en équipe, il y a un vrai travail avec tous les soignants de prise en charge des soignants, de prendre soin de l'équipe et des soignants qui sont là. Et eux, qui sait qui prend soin d'eux. Donc j'ai appelé, moi je ne connaissais pas du tout cette abbaye, moi j'habite pas Narbonne, j'habite à Montpellier, donc je suis pas du tout insérée dans le tissu ecclésial local. L'abbaye elle est à 30 km de Narbonne, donc j'ai appelé le responsable des novices là, et c'était leur supérieur direct, enfin je sais pas qui s'occupe d'eux, en lui disant faites attention parce que voilà, quand ils partent, je sais pas le soir comment ça se passe chez vous, si vous les écoutez, si vous... Et du coup voilà, on a commencé une relation comme ça qui est super. Et puis pendant 2 ans, on a accompagné, il y a un des frères qui est mort d'une sclérose latérale amyotrophique et qu'on a accompagné, et alors du coup qui est resté à l'abbaye jusqu'à la fin. Mais du coup là, ça a vraiment noué des liens fort avec la communauté, de toute l'équipe en fait. Et c'est super intéressant parce que dans l'équipe, on a une infirmière et une aide-soignante qui sont voilées. Donc c'est super intéressant le lien avec les soignants, entre les soignants et les frères. Une fois, avant qu'ils arrivent, on avait une aumônerie. Je disais, pour moi, c'est un reniement de Saint-Pierre permanent. Je ne connais pas ces gens-là, quoi. Une petite dame toute grise, d'une tristesse infinie, vraiment sinistre, avec qui on n'avait aucun lien. Et eux, ils sont jeunes, ils ont un habit blanc qui est super voyant. Et il y a une aide-soignante qui me dit, ce qui est bien avec eux, c'est qu'on ne voit pas tout de suite que c'est des religieux. On ne voit que ça, que c'est des religieux. Mais je pense que pour elle, ça voulait dire qu'ils ne sont pas tristes. Ce qui était quand même... parce que c'est vrai qu'ils rigolent beaucoup et qu'ils sont très en lien avec l'équipe. Ils parlent beaucoup, ils discutent, ils appellent par leur prénom, ils connaissent chaque... les femmes de ménage, toutes. Donc ça crée aussi... ça a permis aussi un travail commun. C'est-à-dire, par exemple, ils viennent le mardi et le vendredi dans le service et c'est l'équipe du service qui en parle avec les patients. C'est-à-dire, l'idée pour nous aussi, c'était qu'ils ne viennent pas voir systématiquement, on est dans un service de soins palliatifs, qu'ils n'entrent pas systématiquement dans les chambres. Parce que, voilà, il y a des patients d'abord qui n'ont pas envie, qui sont des fois trop vulnérables pour dire non. C'est pareil qu'avec nous, hein. C'est important de vérifier que le patient, il est en capacité de refuser. Et puis, voilà, on m'envoie le curé, ça sent le sapin, quoi. Donc, elle passe dans les chambres le matin en disant, aujourd'hui, c'est le jour où il y a les frères qui viennent. C'est-à-dire, ils ne viennent pas pour vous. Ils viennent parce que c'est le jour. Et est-ce que vous avez envie de les voir? Donc il y a des patients qui les voient à chaque fois, des patients qui vont dire ben non, aujourd'hui je suis fatiguée ou j'ai de la visite. Mais c'était vraiment important pour nous que le patient puisse refuser facilement, sans que ça ait l'air. C'est difficile, je trouve, quand quelqu'un rentre dans une chambre et qui dit est-ce que vous voulez, ben, c'est difficile de dire non si on est poli et bien élevé. Quand quelqu'un est là, de lui dire ben, je veux pas vous voir, il y a des patients qui savent très bien le faire, mais il y en a d'autres qui vont jamais oser. Et donc voilà, on a entendu ça avec les frères. Il y a tout un groupe de travail dans le service où on réfléchit aussi aux interventions de tous les gens extérieurs, donc, dont les frères font partie, ils sont dans ce groupe, sur comment on organise l'intervention des gens extérieurs au service. Si vous entendez, ça les rendrait bien. C'est non, forcément. C'est-à-dire que on a tous dans l'équipe, mais je pense que c'est pareil dans toutes les équipes de soins palliatifs, hein, on a plein de recoupements de places, si vous voulez. Je ne suis pas psychologue, mais j'écoute les patients. La psychologue, elle n'est pas médecin, mais elle est capable de dire qu'elle pense que ça serait bien de réajuster un traitement, même si ce n'est pas elle qui va le faire. Et forcément, on est dans un service où il y a 12 lits, donc il y a en journée deux infirmières et deux aides-soignantes. Donc c'est un ratio de personnel important pour qu'ils aient du temps justement pour l'écoute, pour les soins, et que les soins soient faits à l'heure où les patients ont envie, au moment où... Donc forcément, c'est des moments où l'écoute vient et forcément qu'on ne va pas dire aux patients que non, c'est pas l'heure et qu'il faut attendre. Je crois que c'est quelque chose de partagé et avec l'idée que chacun écoute différemment et chacun apporte quelque chose de différent. Et que eux, ce qu'ils apportent, je crois vraiment, c'est cette écoute non médicale. Parce que tous les autres, qu'on soit psy, assistante sociale, médecin ou infirmière ou aide-soignante, on est quand même tous formatés. C'est-à-dire que moi, quand j'entends un patient dire qu'il a mal, immédiatement, quoi que je fasse pour lutter contre, il me vient immédiatement, clac, 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 18 réflexes automatiques sur comment on va faire, qu'est-ce que je vais... Et forcément, au frère, il ne lui vient pas la même chose, il lui vient probablement d'autres choses, mais ce n'est pas les mêmes, c'est évident. Et donc forcément, il ne va pas entendre les mêmes choses non plus de ce que dit le patient. Et donc c'est vraiment cette idée-là, qu'on soit complémentaire et pas qu'on se... Il n'y a pas de frontières entre les soignants, hein, mais l'idée est plutôt de proposer une diversité de types d'écoute et de personnes pour que chaque patient puisse s'y retrouver et parler à la personne en fait à qui il a envie de parler au moment où il en a envie. Sans...
Est-ce que je peux vous demander votre expérience à vous en tant que chrétienne face à une fin de vie est-ce que des fois ça vous arrive quand même des moments d'épuisement, vous vous ressourcez comment est-ce qu'il y a des groupes de parole dans votre équipe par rapport à ce qui était dit, par rapport au regard et le visage qui appelle vous quand vous rentrez dans la chambre, vous allez laisser derrière la porte toute votre vie privée, familiale, tout ça, et vous allez devant une personne. Et souvent aussi les patientes ou patients, ils sont seuls, pas de famille. Des fois, ils sont démons qui ont des problèmes cognitifs, qui ne peuvent pas exprimer. Il n'y a pas de communication. Comment vous réagissez face à ces gens-là, avec les toucher, avec le regard, ou parce qu'ils parlent pas, ils ne peuvent pas exprimer s'il a mal ou voilà. Donc c'est vraiment pour avoir. Avoir l'exemple de votre expérience professionnelle et en même temps est-ce qu'il y a des difficultés, c'est quoi les difficultés surtout au niveau de dimension spirituelle?
Merci. Alors forcément je pense que la médecine, globalement, c'est difficile hein, d'entendre la souffrance des autres, où qu'on soit en pédiatrie ou qu'on soit en soins palliatifs. C'est toujours compliqué d'accueillir la souffrance. Ce qu'il y a, c'est que dans un service de soins palliatifs, ça fait partie des choses qu'on a pensées dès le début, que ça allait être difficile pour tout le monde, pas pour moi spécialement, hein, mais pour l'ensemble des soignants du service. Donc il y a des outils qui sont proposés d'emblée globalement à tous les soignants. Alors après, rien n'est obligatoire non plus, hein, mais on a une supervision donc avec quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est un temps qui est super important, qui permet à la fois de discuter soit de certaines situations de patients qui mettent en difficulté, soit aussi beaucoup de la vie en équipe. La vie en équipe aussi, c'est compliqué hein, quand on travaille dans une équipe, je pense qu'on fait du vrai travail en équipe, mais tu travailles en équipe, montre-moi tes cicatrices, c'est pas toujours facile. Hein, on n'a pas le même langage, on est chacun avec nos caractères, nos particularités. Donc voilà, la supervision, elle sert à ça, et ça, je pense que c'est un temps de respiration. Alors moi, je suis étonnée que ce soit pas proposé à tous les soignants dans tous les services, parce que c'est pas lié du tout seulement au fait qu'on travaille avec des gens en fin de vie, mais juste que ça fait un temps de respiration dans une équipe, disons, ça permet de tenir jusqu'à la prochaine supervision quand il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qu'on a besoin de se dire et qui sont pas faciles à dire, de se dire, ben voilà, tiens, on en parlera à la prochaine supervision, c'est toutes les 6 semaines, c'est juste le bon délai qui permet de se dire, ben voilà, je sais que j'aurai un endroit où en parler, pas mal de trucs sont réglés d'ici là, mais voilà, ça permet de tenir et du coup on est une équipe assez stable. On a fait par contre plusieurs tentatives de groupe de parole avec les soignants du service qui n'ont pas abouti, et ça fait maintenant 4 ans que la psychanalyse de l'équipe, elle a mis en place un groupe d'écriture, et alors ça fonctionne super bien et c'est une expérience fascinante à regarder. Donc les soignants qui veulent, mais ils sont de plus en plus nombreux, maintenant ils y sont presque tous, ils écrivent sur des situations qui les ont mis en difficulté et ils partagent ce qu'ils ont écrit. Donc voilà, ils n'avaient pas envie de parler, mais par contre d'écrire, ça leur va bien. Et c'est un exercice tout à fait singulier. Enfin, vraiment, c'est vraiment le moyen que eux ont choisi et qui leur va bien. Mais dans d'autres équipes, ça pourrait être tout à fait autre chose. Donc il y a un groupe d'écriture. Et puis moi, ça c'est personnel, je fais partie depuis très longtemps d'un groupe Balint, c'est-à-dire un groupe de travail sur la relation soignant-soigné, donc avec d'autres médecins qui travaillent pas du tout en soins palliatifs. Et donc c'est pour ça que je pense que ce que je vous partage, enfin j'imagine ça doit vous parler à tous, parce que c'est pas singulier du tout aux soins palliatifs, hein, la relation avec les patients, elle a un effet sur nous. Nous, on a un effet sur les patients, ils ont un effet sur nous. Même si on essaye de ne pas être encombré par notre vie privée, forcément, on est tous, voilà, on vient avec ce qu'on est aussi. Hein. Alors moi, j'essaye, mais là aussi, c'est pas du tout. Enfin voilà, quand on rentre dans une chambre, d'être disponible au patient qui est là, au moment qui est là. Je m'assois toujours, j'essaye de jamais parler debout, j'ai horreur d'être debout. Donc je trouve qu'une fois qu'on est assis, même si on reste pas longtemps, il y a des patients qui sont fatigués, qui n'ont pas envie. Le fait d'être assis, d'avoir les yeux à la même hauteur, ça permet de dire au patient, voilà, sur ce temps-là, je suis disponible. Après, voilà, ça peut être un temps très court, ça peut être un temps long, on va prendre ce qui vient. Mais en tout cas, sur ce temps-là, il n'y a pas de problème. Donc en général, on est deux, on fait les consultations à deux, donc soit un binôme médecin-infirmière, soit avec la psychologue ou l'aide-soignante ou l'assistante sociale en fonction des demandes, des besoins, à domicile aussi. On essaye d'aller à deux et on adapte le binôme en fonction de la demande qui nous a été faite. Mais voilà, en tout cas, c'est un temps posé qui est pour le patient. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je dirais presque la moitié de notre temps, je pense, avec les familles, ce qui nous paraît super important. Donc nous, on a très peu de patients seuls, c'est très rare. Je pense que ça, c'est vraiment le département rural qui fait ça. Hein. Je pense que c'est certainement très différent si on travaille dans une grande métropole, mais on a très peu de patients seuls. Les patients qui sont seuls, c'est les patients qui ont toujours vécu seuls. C'est l'ouvrier agricole qui vit seul dans sa cabane au fond des vignes. Il y en a, hein, on en a tout le temps, mais ça reste vraiment... Et même ceux-là, il y a toujours des voisins qui viennent. Enfin, moi, je suis très étonnée. Et tout ce qu'on lit dans les journaux, les gens meurent seuls. Mais nous, c'est pas du tout notre expérience, mais pas du tout. C'est les patients, enfin moi je suis même surprise, comme les familles, elles sont demandeuses qu'on leur dise comment elles peuvent se rendre utiles. Souvent ils sont démunis, ça c'est sûr, ils savent pas, ils ont pas d'expérience. Maintenant on peut arriver à 65 ans sans avoir jamais vu un mort, donc ils savent pas comment faire. Souvent ils sont perdus, mais par contre ils ont envie d'être là et ils sont prêts à bousculer leur quotidien et à se mettre en quatre. Et je trouve que voilà, les gens qu'on accompagne dans l'ensemble, c'est des gens très simples, hein, qui sont représentatifs de l'endroit où on bosse, et ils se posent pas un million de questions. On voit plein de familles, on a pas mal de patients avec des cancers ORL, donc ce prototype de patients, enfin pour ceux qui ont l'habitude, tous les mêmes, alcoolo-tabagiques, donc avec des ruptures familiales importantes, c'est tous des petits monsieur tout secs. Et ben là, mais 8 fois sur 10, et j'ai vu un papier, donc c'est pas que chez nous, ça c'est vraiment partout, l'ex-femme elle revient et elle va s'occuper d'eux jusqu'à la fin, et puis c'est comme ça quoi, ça pose problème, enfin on n'y a pas réfléchi pendant, c'est comme ça. Et moi je suis très frappée de ça, et donc nous notre travail ça va plutôt être de les soutenir et de les aider. On n'a pas c'est jamais nous qui allons tirer, hein, mais simplement ce temps là avec les familles nous paraît essentiel, parce que on essaye d'abord parce que pour savoir ce qui convient le mieux aux patients, c'est souvent eux qui les connaissent le mieux, hein, Donc c'est ce qui va être le plus immédiatement efficace pour le patient. Et puis parce que ça nous paraît très important d'éviter les situations de concurrence entre la famille et les soignants, de qui c'est qu'il connaît le mieux, qui c'est qui sait le mieux ce qui est bien pour lui. Parce que souvent on voit ça, ces conflits entre l'aide-soignante qui fait la toilette et l'épouse qui veut faire la toilette aussi, et laquelle sait qu'il a fait le mieux. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter à ce que souhaitent les familles. Il y a des familles qui vont vouloir être là au moment des soins et d'autres qui ne vont pas vouloir, et donc ce n'est pas obligé d'y être, mais ce n'est pas interdit non plus. Il n'y a pas d'horaire de visite, ils peuvent venir quand ils veulent. L'idée est vraiment d'associer les familles au maximum pour éviter toutes les situations de conflit entre les soignants et les familles qui sont toujours préjudiciables pour les patients, et là au contraire qui permettent, ils voient les familles en fait que ce qu'on cherche c'est le mieux pour le patient, et du coup forcément ça fait équipe quoi, hein, et ça fait juste une plus grande équipe pour prendre en charge les patients. Donc on fait dans nos dossiers presque toujours des petits génosociogrammes, c'est-à-dire des petits dessins des petits arbres généalogiques des familles. On met le patient et puis on met tous les liens autour, et donc chacun qui a discuté avec le patient et qui a eu des informations, on rajoute sur ce petit schéma qui est grand comme ça, hein, mais où on va avoir ça va permettre, le patient qui a raconté une fois qu'il a perdu un bébé en bas âge il y a 40 ans, il n'aura pas besoin de le re-raconter 6 fois, c'est-à-dire qu'une fois que c'est noté, tout le monde le sait. Une fois qu'il a dit qu'une patiente a dit que sa mère, chaque fois qu'elle la voit, eh ben, il lui faut 3 jours pour s'en remettre, on a des petits codes, alors on va noter les liens forts, les liens faibles, les liens toxiques, les liens aidants, les liens que les patients identifient comme tels, et qui vont nous permettre, nous, de savoir, par exemple, si on organise un retour à domicile, ben forcément, on ne va pas s'appuyer sur une personne que le patient lui-même nous décrit comme toxique pour lui. Hein, mais par contre, on va s'appuyer plutôt sur les personnes qui sont des personnes ressources. Et donc, ça nous permet, disons, de mutualiser les informations qu'on a sur les patients. Et c'est super vite fait. Enfin, ce n'est pas du tout compliqué. C'est facile à lire. Et ça permet de... Il me semble, moi, que si on accompagne les patients sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour... On peut pas être juste. C'est une fois qu'on a compris comment il est inséré dans son tissu social et familial qu'on peut être adapté dans les réponses qu'on apporte. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce que cette famille elle peut se libérer? Comment elle est prête à être disponible? Voilà. Donc après, au niveau spirituel, alors il y a ce qui est pour moi, donc qui est voilà de mon ressourcement personnel, la prière, et puis il y a le lien avec les patients. Alors moi, je suis assez vigilante. Je prends ce qui vient. J'essaye de saisir les perches. Parfois, je tends des perches, mais j'essaye de pas. Enfin, je voudrais pas être à la fois pour les patients. Le curé, le psy, le médecin, je trouve que c'est important aussi quand même. Voilà, moi, dans l'équipe, je suis le médecin. Donc, voilà, j'occupe pas toutes les places. Je pense que c'est pareil pour chacun. Donc, on prend ce que les patients... voilà, ça va des fois être avec moi qui vont avoir envie de parler de ces sujets-là. Mais c'est pas un objectif pour moi. Alors... c'est pas un objectif que les patients prient, hein. Les patients musulmans, c'est souvent assez facile, hein, parce que voilà, ça vient facilement, ils rencontrent les frères très facilement. On a essayé d'organiser. Alors moi, je connais pas bien ce qui nous paraît évident, c'est que chez les musulmans, la dimension de l'accompagnement avant le décès par le clergé n'existe pas. C'est pas du tout comme chez nous. Le clergé est là au moment du décès. Très facilement, et ça se passe très bien pour les soins, pour les toilettes, tout ça. Mais par contre, ça, c'est pas du tout la dimension avant de pouvoir accompagner le patient présente. Mais par contre, ils sont souvent super contents de discuter avec les frères. Je pense à eux que ça pose le moins de problèmes, parce qu'on a beaucoup de patients musulmans. Et c'est...
Moi, je suis médecin coordinateur d'HAD avec 60% d'activité de soins palliatifs. Je vais avoir votre 60 à 70% d'activité de soins palliatifs à domicile. J'aimerais avoir votre impression sur l'impact de la modification de la loi de février 2016 sur la relation avec vos patients, sur la façon dont ils connaissent ça, ils l'abordent. Parce que, personnellement, on a quand même vu quelques... épisodes où, sachant ça, se renseignant, certains patients demandent maintenant des choses pas forcément ajustées. Alors, comment vous voyez ça?
Où est-ce que vous travaillez, si je peux me permettre?
Au Mans.
Alors, je vous pose la question parce qu'en ce moment, je mène une petite enquête sur ce sujet. Parce que chez nous, rien, aucun changement, rien. Il n'y a pas un seul patient qui est au courant qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée, mais zéro. Et du coup, j'essaye, parce que par contre, jusqu'à présent, j'avais identifié seulement à l'intérieur du périphérique parisien les patients qui savaient qu'il y avait une nouvelle loi et qu'il y avait donc des demandes différentes. Au CHU de Montpellier, à l'équipe mobile, rien du tout non plus. Enfin, j'essaye de en banlieue parisienne, rien non plus. Enfin, chez nous, zéro changement, rien. On n'a pas eu une demande de sédation profonde et continue comme ça, de gens qui arrivent en disant je veux être sédaté, ça ne nous est jamais arrivé. Donc moi pour le moment je dis rien, mais donc a priori vous avez une expérience différente.
C'est...
Oui. Alors peut-être chez nous, il y a un biais aussi. Hein. Je, c'est pour ça que j'essaye de... Ben oui, oui, c'est... Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, à peu près, le changement de loi ? Est-ce que vous êtes à peu près... Donc, la loi sur la fin de vie, elle a changé il y a un an, au mois de février dernier, après 4 ans de débats houleux et acharnés. Et donc, ce qui a changé entre l'ancienne loi et la nouvelle loi, c'est les directives anticipées rédigées par les patients sont devenues contraignantes pour les médecins, pas opposables, mais contraignantes. C'est-à-dire que si on veut ne pas les suivre, il faut qu'on puisse le justifier et dire pourquoi on ne les a pas suivis. Et puis la loi propose explicitement, dans un nombre de cas restreint et assez bordé, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire de pouvoir endormir les patients. Alors chez nous, comme on n'a jamais eu de demande de ce type-là, on continue à utiliser la sédation exactement comme on le faisait depuis tout le temps, c'est-à-dire comme un outil pour les situations de crise. Donc nous on travaille déjà avec CEDAPAL, l'outil qui va sortir là de l'ASFAP, la Société Française de Soins Palliatifs, il y a un groupe sédation qui travaille là-dessus et qui a fait un outil de typologie des sédations, parce qu'en fait dans le terme de sédation, qui est donc le fait de faire varier le niveau de conscience des patients par des médicaments, on utilise la sédation au sens large, les sédations en fait, pour des symptômes très différents, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des difficultés respiratoires, que ce soit un risque hémorragique, donc des types de sédation extrêmement différents. Et donc il va sortir en juin là un outil qui permet de faire une typologie de ces sédations et de savoir a priori et a posteriori qu'est-ce qu'on fait avec la sédation, quel est notre objectif, et puis surtout voilà, est-ce que c'est de la sédation intermittente, est-ce que c'est de la sédation temporaire. Donc nous on utilise la sédation quand on en a besoin, c'est-à-dire des médicaments qui permettent de faire varier le niveau de conscience. C'est pour moi, je le dis souvent et c'est vraiment, enfin, ça correspond à ce que moi je ressens, aussi la possibilité de rester avec les patients jusqu'au bout, de pouvoir leur dire qu'on restera avec eux sans s'enfuir. Pour moi, je trouve que c'est insupportable de rester dans la chambre d'un patient qui étouffe. Ça fait étouffer, je trouve, et de pouvoir leur dire qu'on a des médicaments et que s'ils en ont besoin, on les utilisera pour qu'ils soient confortables. Je trouve que c'est un des outils qui me permet de tenir en soins palliatifs. Cette année, donc, on a suivi 600 patients. On a prescrit 50 fois du midazolam, qui est le médicament qui permet de... On l'a utilisé 25 fois et on a fait zéro sédation jusqu'au décès, jamais. C'est-à-dire que c'est des sédations temporaires, soit on met des sédations la nuit, on fait assez souvent des sédations quotidiennes intermittentes, c'est-à-dire on met la nuit pour que les patients retrouvent un rythme jour-nuit, parce qu'une fois qu'ils retrouvent un rythme jour-nuit plus équilibré, dans la journée, ils sont moins douloureux, ils ont meilleure morale, ils sont plus présents, ils sont plus confortables. Donc voilà, pour moi, c'est un outil qui est important, mais on pourra échanger là-dessus, hein, parce que c'est pas toutes les équipes qui le pensent de la même façon. Et par contre, ce qui est absurde dans la proposition qui est faite dans la loi de sédation continue jusqu'au décès, c'est l'idée de pouvoir décider à l'avance qu'on va mettre en place un traitement qui ne sera pas réévalué selon l'état clinique du patient. Pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, ça va contre la position médicale complètement. C'est-à-dire qu'on met un traitement parce qu'à un moment, il y en a besoin, et puis après, on réévalue. On a parfois des patients qui décèdent en cours de sédation, mais la sédation n'avait jamais été mise dans le but d'être maintenue jusqu'au décès. Elle est mise parce qu'à un moment, ils ont du mal à respirer, parce qu'à un moment, et puis si ces difficultés passent, on arrête. Et si elles persistent, on maintient. Mais l'idée qu'on peut mettre un traitement en décidant d'avance qu'on ne va pas le modifier, quoi qu'il arrive, me paraît complètement, contraire au rôle d'un médecin dans une relation de soins. Et donc ça, c'est des choses qu'on explique aux familles assez facilement. Mais on n'a jamais eu de demande explicite d'un patient. Alors je pense qu'ils sont particulièrement... attarder nos patients des corbières profondes. Ça va venir, c'est ça ?
Alors, moi, j'ai un exemple. Je suis médecin en équipe mobile en Bourgogne, à Beaune. J'ai une histoire récente qui n'a pas un mois, d'un patient de 60 ans atteint d'une myopathie des ceintures très évoluée, qui évoluait depuis à peu près 15 ans, qui a une gastrostomie depuis 5-6 ans, trachéo depuis 3-4 ans, et quasiment plus de motricité, si ce n'est une pince pouce index qui a disparu dans cette dernière année, qui était très au fait de l'évolution de la loi, qui avait bien suivi les quatre années passées, et qui a écrit des directives anticipées en demandant une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour le moment, le jour où il estimerait que la ventilation, si la ventilation H24 devenait nécessaire, il avait une VNI nocturne, il estimerait que ça serait aller trop loin et que ça serait de l'acharnement de continuer. On est arrivé dans cette situation ces dernières semaines, ces derniers mois, à partir du mois de décembre, après un séjour en réa à Dijon. Il est sorti chez lui avec une VNI H24 et il a demandé à ce que soient appliquées ces directives anticipées, contraignantes, et la loi. Alors nous, on a fait le constat, alors ça a été assez compliqué, déjà... Mettre en place ça à domicile, certainement pas possible. On est à peu près tous d'accord. Enfin, déjà, c'est complexe, mais là, encore plus. Ensuite, le problème d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès d'un patient trachéotomisé dépendant H24 d'une machine, en fait, on ne sait pas faire. On sait utiliser du midazolam chez des patients très fragiles qui ont des cancers au bout de course. Il ne faut pas grand-chose pour avoir le double effet faire en sorte qu'ils puissent s'endormir de manière apaisée sur un symptôme, une asphyxie ou quelque chose comme ça, pas de souci. Mais ce patient, en l'espèce, ça nécessitait qu'on ne fasse pas une sédation. Alors c'est tout le problème de la sémantique, qu'est-ce que ça veut dire sédation ? Sédation avec du midazolam, chez ce patient-là, il fallait l'endormir avec une vraie anesthésie pour après débrancher le respirateur. Donc, nous, on n'a jamais fait. On a fait appel à l'USP de la Mirandière de Dijon pour nous aider, pour que nous, on prenne un peu de recul. Il est hospitalisé en soins intensifs dans mon hôpital. Et puis, après un mois de vérification qu'on était dans le cadre de la loi, qu'effectivement, on avait tout écrit, tout bordé, vu la famille, personne de confiance, écrit des pages... envoyer le dossier à l'avocat, enfin à la CHAM, enfin à l'assureur de l'hôpital pour être sûr qu'on aurait, je sais pas, l'anesthésiste qui l'avait en charge a endormi le patient. Simplement, oui, il y a eu un peu de midazolam pour le détendre, mais jusqu'au jour où il a été endormi, il était conscient. Alors certes, il parlait plus, il avait plus de canule parlante, on lisait sur ses lèvres, mais sa demande était extrêmement claire, réitérée, et on avait tous les critères. Et on pouvait pas se définir, on n'a pas pu se définir. Et voilà, donc ce patient, il a été endormi, enfin, avec un agent anesthésique finalement après. Hein, donc il a eu, et après il a été débranché. Alors qu'on le fasse chez un patient comateux, après un coma post-anoxique, oui, enfin, ça, on arrête, enfin les lata en réa, ok, Mais là, c'est un patient conscient qui avait rendez-vous ce jour-là, avec la mort ce jour-là. Donc ça reste extrêmement difficile pour nous, parce que ça ne s'est jamais fait. On avait bien conscience qu'on écrivait quelque chose. Là. Alors je ne sais pas où ça a pu se faire ailleurs en France jusqu'à présent, mais on va en avoir d'autres. En l'occurrence, alors c'est compliqué parce qu'on peut dire, oui, là on a l'anesthésiste en l'endormant et puis en débranchant a donné la mort, mais on n'avait pas d'autres moyens pour lui. Pour un arrêt dialyse, la loi dit qu'il faudrait faire une sédation, mais dans la dialyse, dans le major, ils s'endorment tout seuls, ils sont en insuffisance rénale terminale, donc ils vont s'endormir d'un coma urémique le plus souvent. C'est rare qu'il y ait des complications, il ne faut pas grand-chose. Mais là, il fallait, pour pas qu'il étouffe, avant d'enlever ce qui le maintient artificiellement en vie, et c'est ce que nous demande la loi. Donc le support ventilatoire, il fallait l'endormir, autrement il allait étouffer. Sauf que là, on l'endormait suffisamment profond pour le débrancher, alors qu'il était conscient avant.
Alors, ce qui est particulier, c'est que c'était déjà quand même dans la loi précédente, puisque le patient a le droit de demander l'arrêt des traitements. C'est une demande d'arrêt de traitement. Simplement, je pense que le nouveau texte, comme il est formulé, il introduit dans la relation avec les patients une espèce de notion d'obligation qui rend compliqué, je trouve, le lien avec les patients. Parce que du coup, voilà, ça modifie quelque chose dans la liberté qu'on a et dans mais en théorie, c'était déjà. Allez-y. Non, c'est...
Moi, j'avais une question, mais d'un tout autre ordre. C'était plus par rapport à votre parcours personnel. À la base, avant de faire les soins palliatifs, vous étiez médecin généraliste, vous étiez oncologue. Et qu'est-ce qui vous a décidé pour faire les soins palliatifs? Je pose la question parce que moi, je suis interne en médecine générale. Je postule pour faire le desk de soins palliatifs dans ma faculté d'origine qui est Poitiers. Et voilà. Et enfin, j'ai pas mal de raisons pour vouloir les faire, mais... Enfin, je suis toujours intéressée pour connaître les motivations aussi d'autres personnes. Comment ? Oui, voilà, les parcours. Et finalement, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait les soins palliatifs ? Enfin, j'imagine que vous ne regretterez pas si vous êtes restée toutes ces années, mais qu'est-ce que vous pensez que ça vous aurait apporté par rapport à ce que vous aviez prévu initialement ?
Alors moi, j'avais prévu ça initialement. Je suis très vieille par rapport à vous, mais j'ai fait un de mes premiers stages d'externe au centre anticancéreux à Montpellier. Et alors à l'époque, il n'y avait pas de soins palliatifs du tout. Je pense que ça commençait juste à Paris, c'est vous dire comme je suis vieille. Mais chez nous, il n'y avait absolument rien. Même pas l'idée, moi, je n'avais même pas l'idée que ça existait. Mais par contre, j'ai été d'emblée, mais vraiment choquée de la façon dont les gens mouraient. Et alors moi j'étais partie tout au départ, je connaissais rien à la médecine, j'ai commencé médecine, il n'y a pas de médecin dans ma famille, j'en avais jamais vu, je voulais faire de la réanimation néonatale. Donc c'est vous dire si j'ai lourdement dévié de mes idées de départ, mais j'ai fait mon premier stage en réanéonate et au bout de 5 minutes je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Donc c'était technique et tellement il n'y avait aucun lien vraiment, ce qui m'intéresse c'est la relation. Contre, d'emblée, j'ai été mise en difficulté avec la façon dont les gens mouraient en me disant « mais sûrement, ça doit être possible de faire autrement enfin, ». Et puis, à l'époque, on était plusieurs externes, on avait sollicité l'équipe médicale en disant qu'on voudrait puisqu'on avait des cours sur le néo du sein et qu'on voudrait avoir un cours sur la façon de parler aux malades et qu'est-ce qu'on pouvait leur dire. Et on nous a répondu « c'est de la tarte à la crème pour les médias ». Et moi, ça m'avait vraiment laissé mais sur le flanc. Et à la même époque, il y a eu une journée à Marseille de soins palliatifs, d'explication de ce que c'était. Donc j'ai su que ça existait et j'ai eu la chance de partir 2 ans au Canada avant mon internat. Et là, j'ai fait 2 ans, j'ai fait mon diplôme de soins palliatifs là-bas. J'ai travaillé dans une unité à Ottawa et voilà. Donc après, quand je suis rentrée en France, j'ai fait pendant 6 ans de la médecine d'urgence parce qu'il n'y avait pas d'unité qui existait, mais c'était ça que j'attendais de faire. C'était mon projet de départ en tout cas, et j'ai jamais regretté depuis. Je trouve que c'est passionnant parce que je pense que c'est vrai dans tous les domaines de la médecine, si on veut bien. Mais en tout cas, je trouve que il y a une intensité des relations humaines qui est particulièrement forte, et je trouve que du coup c'est particulièrement passionnant, mais je pense qu'elle dépend aussi beaucoup de ce qu'on met dans la relation, et je voudrais certainement pas donner l'idée que c'est mieux qu'ailleurs. Je pense que dans n'importe quelle spécialité, on peut construire ce lien fort, mais on est une médecine qui a du temps, plus de temps, donc ça c'est super important, je trouve. Et puis enfin, qui valorise d'abord cette dimension de la relation qui est soignante au sens propre du terme, je trouve, et voilà, je trouve que c'est passionnant. Donc on accueille des internes, nous, dans notre équipe, et je trouve que c'est aussi pour nous une expérience absolument passionnante. À Narbonne, c'est... Oui, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est une périph' de Montpellier, ouais. Ouais. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant aussi pour nous, l'accueil de jeunes, je trouve que c'est assez récent pour nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça, et c'est super questionnant aussi, c'est très rare, il n'y a pas beaucoup d'internes dans le privé, ni en soins palliatifs, et du coup, c'est super intéressant. C'est l'heure, à table. Est-ce que vous avez une dernière question? J'admire beaucoup mes confrères qui sont en soins palliatifs et qui viennent écouter quelqu'un qui fait la même chose, j'espère que... Parce que je n'ai pas dû vous apprendre grand chose. Oui. Forcément. Ouais. C'est étonnant, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est voilà, non, c'est super, oui, c'est une expérience super. Ben non. Alors, on est en train de construire, nous, une nouvelle clinique, ce qui va être, c'est un projet génial pour nous, et donc, parce que le fait, on construit donc un lieu, donc une clinique, on a une maternité, enfin, nous, ça va être de la maternité aux soins palliatifs, mais le fait de construire un nouvel établissement, là, on est dans un établissement pourri, moche, qui n'est pas du tout adapté à l'activité qu'on fait, et là, de pouvoir concevoir des lieux adaptés à ce qu'on a envie de faire, alors pour nous, on a travaillé 2 ans avec les architectes, ça a été un travail génial, on va avoir un service génial, ça va être super, enfin, ça va changer complètement notre pratique, avec une pièce à vivre de 200 mètres carrés, avec une cuisine, avec une terrasse, enfin, ça va être génial, vraiment, je m'y vois déjà, et du coup avec une salle, donc là aussi par contre on a pensé avec les frères une salle qui soit ouverte forcément, là qui sera multiculte forcément, là on ne peut pas construire une chapelle, la clinique met un lieu à disposition, je pense que ça ne servira pas beaucoup à d'autres qu'aux frères, mais en tout cas on a essayé avec eux de penser l'espace pour que ce soit accessible à d'autres si besoin. Voilà. Merci. Bon appétit.
Absolument.
Je sais que quand j'arriverai, je serai sédaté. On comprend.
C'est ça.